Donc là, on est sur un programme de formation donc obligatoire. Les internes vont passer au cours de leurs 5 ans de formation, une fois jeunes, une fois plus avancés dans leur formation. Et ils ont émis des souhaits sur l'opération qu'ils voulaient faire. Et donc, on respecte ce souhait dans leur apprentissage pour qu'ils puissent réellement avancer dans leur cursus. Parce qu'on estime que cette formation va être une marche, une étape dans leur formation où ils vont prendre conscience de différentes difficultés et d'avancer dans cette formation.
Chaque année, à raison de 2 sessions par an, l'une en mars et l'autre en octobre, les internes en chirurgie thoracique et cardiaque se donnent rendez-vous à l'ABS Lab à Poitiers. Durant 2 jours, ils vont participer à la formation nationale de simulation en chirurgie cardio-thoracique, organisée par la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. La formation permet à 12 apprenants qui travaillent en binôme, sous le regard bienveillant d'un encadrant, de réaliser une opération entièrement de A à Z. Le laboratoire met à leur disposition un vrai robot chirurgical ainsi que tout le matériel nécessaire pour réaliser leur opération dans de bonnes conditions. Des infirmières et des infirmiers de bloc opératoire ainsi que les étudiantes et les étudiants en monitorat font en sorte que la formation se passe dans de bonnes conditions. En mars 2025, nous avons pu passer les portes du laboratoire grâce au professeur Christophe Geil, chirurgien thoracique et cardiovasculaire au CHU de Poitiers. La particularité de la formation est le SimLife, procédé mis en place par les chercheurs en médecine à Poitiers, qui permet de simuler une vraie circulation sanguine à l'intérieur de corps perfusés. Le but étant de respecter la consigne qui veut qu'on n'opère jamais la première fois sur le patient. SimLife, une opération presque réelle, un reportage d'Explore le Mag.
Christophe Geil, je suis chirurgien thoracique et cardiovasculaire, professeur des universités. Je vous accueille ici donc à l'ABS Lab, le laboratoire d'anatomie de l'université de Poitiers, donc de la faculté de médecine, où on a ces 2 jours une formation nationale de simulation en chirurgie cardio-thoracique. Hier, c'était les journées donc, de chirurgie thoracique où des étudiants ont pu faire des opérations de chirurgie thoracique entièrement et aujourd'hui de la chirurgie cardiaque. Le concept à chaque fois, donc, c'est intégrer dans leur cycle de formation les internes. Donc, on accueille 12 apprenants qui vont travailler en binôme, un vieil interne, un jeune interne, et tous ont un encadrant, un chirurgien expert, qui est là aujourd'hui pour les accompagner, pas du tout pour opérer, mais c'est les internes qui vont faire l'opération entièrement, de A à Z, sur un programme opératoire déterminé, et ils vont être encadrés toute la journée pour faire ces opérations. Donc là, on est sur un programme de formation donc obligatoire. Les internes vont passer au cours de leurs 5 ans de formation, une fois jeunes, une fois plus avancés dans leur formation. Et ils ont émis des souhaits sur l'opération qu'ils voulaient faire. Et donc, on respecte ce souhait dans leur apprentissage pour qu'ils puissent réellement avancer dans leur cursus. Parce qu'on estime que cette formation va être une marche, une étape dans leur formation où ils vont prendre conscience de différentes difficultés et d'avancer dans cette formation. Aujourd'hui, par exemple, on a des opérations qui sont dites les plus simples, le remplacement valvulaire aortique, par exemple, en chirurgie cardiaque, à des opérations les plus compliquées que vont être le remplacement de la crosse aortique où on va arrêter entièrement la circulation humaine quand on en fait ça chez le vivant. Là, ils vont mener toutes les étapes pour bien se les répéter, pour que le jour où ils seront exposés à faire cette chirurgie d'expertise chez le vivant, ils aient déjà répété au moins une fois, si ce n'est deux, leur acte. Les encadrants sont là, alors encore une fois, non pas pour prendre les instruments et faire le geste, mais vont être là pour les guider, pour leur dire « t'as oublié tel temps d'arrêter la circulation sur tel vaisseau, de clamper » ou quand on remplace une valve, il faut enlever la valve. Donc, ils vont expliquer comment on enlève cette valve au mieux sans être délabrant, mais l'enlever suffisamment pour mettre une valve parfaitement adaptée ou montrer comment on calibre la nouvelle valve. Et c'est vrai que tout ce rôle-là, alors, ils l'ont vu faire, les internes l'ont vu faire au bloc opératoire. Ils nous aident au quotidien pour faire ça. Et là, ce qui change, c'est que c'est eux qui le font. Et l'encadrant est là juste pour aider, mais pas pour faire en tout cas. Alors dans le bloc opératoire, ils peuvent faire des parties d'étape de l'opération. Alors ils vont commencer, quand ils sont très jeunes, par ouvrir le malade. Ensuite, ils vont commencer par mettre la circulation extracorporelle, par exemple. C'est ce qu'on appelle canuler. Donc mettre les canules pour mettre une machine qui va remplacer le cœur et le poumon. Et puis, Ils vont débuter par enlever la valve, mais c'est le chirurgien senior qui la met, ou le chirurgien senior enlève la valve calibre et l'interne va la mettre. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'étapes et ils ont pu, de manière très discontinue, faire des bouts d'étapes, mais pas l'opération forcément entièrement de A à Z. Et ce qui change là aujourd'hui, c'est qu'ils vont faire l'enchaînement du début à la fin de toute l'opération. La spécificité de Poitiers, c'est donc d'avoir mis au point des cadavres perfusés. Donc on est vraiment dans le modèle de simulation le plus proche de l'humain. Qu'est-ce qui a évolué? Avant, on pouvait simuler soit sur des concepts informatiques ou des concepts en plastique avec des mannequins, ou alors opérer sur du cadavre mais qui était non perfusé, donc avec des vaisseaux qui sont complètement vides, il n'y a pas de sang à l'intérieur, ils ne sont pas gonflés. Donc en termes de dissection, ce n'est pas tout à fait le monde réel. Là, on a conjugué l'intérêt du cadavre, donc un modèle humain, mais avec des vaisseaux qui sont perfusés, qui sont remplis de liquide. Et donc, on a une vraie anatomie, on a des vraies circonstances. Voilà, on prélève un vaisseau, on voit le vaisseau qui saigne, entre guillemets, ce n'est pas du vrai sang, mais qui saigne avec le liquide qui s'écoule. Et on est très, très proche de la réalité. Alors, c'est des études qui ont été menées ici au sein du laboratoire, à la fois sur la pompe qui permet de pousser ce liquide et à la fois sur ce liquide qui se rapproche du sang par sa couleur, mais par sa viscosité, par son imprégnation dans les tissus. Et tout ça, ça a été plusieurs années d'études. Et c'est un modèle qui maintenant est breveté, on est protégé pour ça, pour pouvoir l'appliquer au mieux. L'outil, moi, j'en suis pas à l'initiative. C'est vraiment le professeur Faure, le professeur Richer, qui sont chirurgiens viscéraux et anatomistes dans le laboratoire, qui ont eu l'idée et qui ont aidé avec d'autres collègues à mettre au point ce modèle-là. On a été accompagnés, bien sûr, pour cela. Par contre, une fois que le modèle a été au point, ils sont venus nous chercher en tant que chirurgien cardio-thoracique pour savoir si dans notre discipline, ça pouvait avoir un intérêt. Et il est clair que dans notre discipline, on travaille sur les gros vaisseaux, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, l'intérêt est majeur. Et donc, grâce à ça, on a pu mettre ce programme de formation au point avec une adhésion qui a été immédiate des internes, où eux ont vu tout de suite l'intérêt majeur qu'ils pouvaient avoir dans ce modèle, et également des encadrants, des enseignants de notre discipline qu'on a fait venir ici à Poitiers, qui petit à petit ont adhéré à ce programme et ont vu tout l'intérêt que ça avait. Pour aujourd'hui, donc nous on en est à 10 ans d'expertise sur ces modèles. Aujourd'hui on a un modèle qui est complètement abouti avec effectivement 6 cadavres perfusés en même temps, 6 encadrants, 12 apprenants et un modèle qui fonctionne, qui est devenu routinier. Et bien évidemment là-dedans, la force aussi, c'est le soutien du monde industriel médical qui est partenaire, qui nous aide. Et non seulement on a un modèle qui est parfait sur le plan humain, sur le plan de la logistique, la perfusion, mais on va poser des vraies valves, les mêmes que celles qu'on met au bloc opératoire, que ce soit en position aortique, en position mitrale. Si on veut faire une prothèse sur une aorte, on va avoir une vraie prothèse aortique. Quand on veut opérer au niveau thoracique, on opère avec le robot chirurgical que l'on a habituellement. On va utiliser les agrafes qu'on utilise au bloc. Le matériel est vraiment exactement le même, à l'identique que celui utilisé dans les blocs opératoires. On a vraiment voulu reproduire à l'identique ce qui se passe dans le bloc opératoire. Il y a des infirmières de bloc opératoire qui nous accompagnent aussi là-dessus. Le matériel est le matériel qu'on utilise au bloc. On est vraiment exactement dans les mêmes conditions. L'accompagnement pour ces formations, il est énorme. Il y a un accompagnement des encadrants qui vont prendre une journée de leur temps, partir. Aujourd'hui, on a des encadrants qui viennent de Paris, qui viennent de Clermont-Ferrand, qui viennent de Lille. Donc voilà, ils viennent de partout en France et ils vont donner une grosse journée de leur temps pour encadrer. Il y a un engagement donc, de l'industrie, j'en ai parlé. Il y a une demande du service aussi, un investissement de notre service en local, puisqu'on va fermer une salle d'opération pour que des infirmières soient ici et participe aussi à l'effort pour être en condition de bloc opératoire. Et on prend le matériel de notre bloc opératoire pour aider ici aussi, pour qu'on ait vraiment toute l'instrumentation adaptée. Quand ils ont fini leur journée de formation, effectivement, de leur part, il y a une énorme satisfaction. puisqu'ils ont fait, ils ont réussi, dans l'immense majorité des cas, leur opération du début à la fin, dans le temps imparti, mais sans avoir la contrainte du vivant. L'erreur est possible. S'il y a une plaie, ça n'a pas du tout la même conséquence que sur le vivant. Et se rendre compte de tout ça en termes d'exercice de simulation, c'est tout l'intérêt de ce genre de pratique. On voit l'amélioration des pratiques. Ça, on le retrouve très clairement, on le mesure à la fois sur la discussion qu'on peut avoir avec eux. D'abord, leur volonté toujours de revenir. Ça, c'est le meilleur signe comme quoi ça leur a apporté des choses. Au niveau des apprenants. Tous les apprenants qui viennent une fois veulent revenir une deuxième fois pour voir ça. Et quand on discute avec eux, ils nous disent effectivement que ça a été, dans leur pratique, à un moment donné, une évolution notable. Ça les a libérés par rapport à un acte qu'ils ne faisaient pas forcément ou pour lequel il y avait une crainte d'un coup de pouvoir faire ça. On a des grilles d'évaluation sur tous les temps, toutes ces petites étapes que j'ai décrites tout à l'heure, puisqu'en fait, une opération, c'est une somme d'actions. C'est un vrai scénario, comme un film qu'on va mener. Et donc, ce scénario, pour chacune des étapes, on peut effectivement les évaluer de manière assez simple. Ils peuvent, eux aussi, s'auto-évaluer. Et c'est effectivement ces échelles qui vont nous permettre de voir dans quelle mesure il y a une progression au cours du temps. Et ces échelles, comme on est vraiment sur l'évaluation d'un temps opératoire, peuvent aussi être mise en pratique dans les services pour voir l'évolution de l'interne au cours de son cursus, au cours des 5, 6, 8 ans de formation qu'il va avoir pour acquérir telle ou telle opération. Dans l'organisation qu'on a ici, il y a une organisation qui est très importante, qui est le laboratoire d'anatomie. Ce laboratoire d'anatomie, bon, ça fait des années qu'il est ici, il fonctionne grâce au don du corps et ce laboratoire a un respect sur le don du corps qui est majeur. Ça a été un exemple sur les nouvelles lois sur l'utilisation du corps humain pour la formation, justement. Jean-Pierre Richer a été interrogé pour élaborer ces lois. Il y a un investissement du personnel ici qui est majeur dans le suivi, dans la préparation de ces corps pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et c'est reconnu, effectivement. Tous les encadrants qui viennent ici soulignent toujours l'excellence de ce laboratoire. Et cette excellence, on l'a aussi grâce à l'aide des étudiants en médecine qui se battent quasiment pour venir dans ce laboratoire. On a une trentaine d'étudiants qui sont affiliés au laboratoire pour venir aider parce qu'effectivement, pour les 2 jours de formation qu'on a là, c'est plus d'une semaine de préparation. C'est la préparation des corps quand ils arrivent au laboratoire où il va falloir les préparer, mettre des canules. Mais c'est aussi la préparation pour les mettre en état pour pouvoir faire ces opérations dans de bonnes conditions. Et sans ces étudiants et sans leur investissement, on n'arriverait pas à faire ça, bien évidemment. Ils y retrouvent aussi un gain parce qu'ils participent à ces opérations. C'est aussi un mode de transmission, de formation. On leur explique le geste que l'on fait, pourquoi on le fait. Et ça aussi, dans leur enseignement d'étudiants en médecine, ça les aide énormément. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et on est très satisfait d'avoir ces échanges là aussi.
C'était Sim Life, une opération presque réelle, un reportage d'Explore le Mag, à la prise de son et au mixage Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.